Je m'appelle Éric Larchevêque et il y a un peu plus de 10 ans, j'ai cofondé Ledger, qui est aujourd'hui le leader mondial des solutions de sécurité pour cryptoactifs. Si je vous parle de cette entreprise, c'est parce qu'elle est valorisée aujourd'hui à peu près 1,3 milliard d'euros. Et je suis un des premiers actionnaires et Challenge, qui édite chaque année la liste des 500 personnes les plus riches de France, m'a mis dans ce classement avec une fortune estimée à 375 millions d'euros. Alors c'est assez surévalué par rapport à la réalité. Mais peu importe, je fais partie des 500 personnes qui sont censées être les plus riches de France. Et si je fais cette vidéo, c'est pour parler d'un sujet qui a défrayé l'actualité ces derniers jours, ces dernières semaines, qui est celui de la taxe Zucman. La taxe Zucman, je le rappelle, est une taxe qui vise à prélever chaque année 2% sur le patrimoine des plus riches, toutes les personnes qui détiennent plus de 100 millions d'euros d'actifs. Alors cette taxe, elle est là pour compenser le fait que les personnes qui ont beaucoup d'actifs, qui sont riches, ne paieraient pas assez d'impôts par rapport à la classe moyenne, parce que la classe moyenne paye en général des impôts sur ses salaires et que les personnes qui possèdent des entreprises, donc des entrepreneurs, vont surtout payer des impôts sur la flat tax, donc à 30%, au lieu de peut-être 40-45%. Pour simplifier, en France, il y a trois types d'impôts. Il y a l'impôt sur les sociétés, donc là, c'est quand une entreprise va faire des bénéfices et va devoir payer l'impôt sur les sociétés. Il y a l'impôt sur le revenu. Quand vous recevez de l'argent avec votre salaire en net, vous allez payer de l'impôt sur ce que vous recevez. Et il y a ce qu'on appelle la flat tax. Donc là, on n'est pas dans du salaire. C'est quand vous vendez un actif avec une plus-value, eh bien, il y aura 30% de cette plus-value qui sera payée en impôt. Et la raison de la discorde, c'est que l'impôt sur les revenus est supérieur à la flat tax. Et comme la plupart des gens riches qui ont des actifs gagnent surtout de l'argent via ces actifs et donc payent moins d'impôts en proportion, mais sûrement pas en valeur absolue. Tout a commencé pour moi lorsque Manès Madel, qui est un lycéen syndicaliste, a dit dans une interview qu'il considérait que l'ensemble des malheurs de la France et surtout le fait que la France se retrouve aujourd'hui dans une situation économique dramatique provient des 1800 familles les plus riches de France qui, selon lui, en fait, accaparerait toutes les richesses. J'ai répondu sur ce point-là et ensuite j'ai été mis dans l'engrenage de la taxe Zucman. J'étais un des rares concernés à m'exprimer et donc j'ai été invité sur les plateaux de télévision, sur diverses radios et aussi j'ai pu en discuter avec certains journalistes. En général, quand on fait des interviews, on n'a que quelques minutes pour s'exprimer et j'ai donc décidé de faire cette vidéo pour expliquer de manière assez pragmatique. Eh bien, comment cette taxe Zucman serait potentiellement le fossoyeur de la France et de son économie? Regardons ma situation. Je suis entrepreneur, j'ai créé une dizaine d'entreprises, il y en a qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins fonctionné, et j'ai surtout créé Ledger, donc valorisé à plus de 1,3 milliard. Alors, Ledger, c'est une entreprise qui fait quelques centaines de millions d'euros de revenus, mais qui n'est pas encore rentable. Pour arriver à cette maturité, Ledger a dû lever des centaines de millions d'euros pour investir en technologie, investir en marketing, et être présent dans le monde entier. Mécaniquement, cela veut dire que pour pouvoir lever plusieurs centaines de millions d'euros, il faut valoriser ces entreprises à des montants bien plus élevés, par exemple plus d'un milliard. Pourquoi? Parce que si on ne le faisait pas, eh bien les nouveaux actionnaires viendraient écraser nos participations et au final, on se retrouverait avec 2%, 1% des montants ridicules. Et donc, c'est ainsi que fonctionne le développement économique dans les startups. On va valoriser une entreprise à un potentiel futur et on va lever des fonds pour pouvoir assurer ce développement économique. C'est pour cela que les startups sont souvent valorisées de façon assez importante et pour autant, elles ne génèrent pas de dividendes ou de profits pour ses actionnaires. Une entreprise dans les technologies va mettre 10 ans, 20 ans avant d'arriver à une véritable maturité qui permettra un jour de pouvoir verser des dividendes. Si j'explique tout ça dans un premier temps, c'est pour vous permettre de mieux comprendre la raison pour laquelle on peut avoir des entreprises qui sont valorisées à plus d'un milliard et pour autant ne pas être en capacité de pouvoir distribuer des dividendes à ses actionnaires. Donc moi, en tant que premier actionnaire de Ledger, je ne reçois pas de dividendes. Ledger ne me paye pas, je ne suis pas salarié de Ledger, j'ai quitté mon poste de président il y a environ 5 ans. Lorsque j'étais président de Ledger, je devais toucher de l'ordre de 200 000, 250 000 euros par an en salaire brut, ce qui est bien entendu très élevé par rapport à la moyenne, mais en ligne avec ce type de rémunération pour un poste de président. Et je payais bien évidemment non seulement les taxes patronales, le coût du travail, et puis l'impôt sur le revenu. Mais depuis que j'ai quitté mon poste de président, Ledger ne me rapporte pas d'argent. Encore une fois, il n'y a pas de dividende. Et c'est normal, et ce n'est pas un problème en soi, puisque dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, il faut être très patient et il faut vraiment des années et des années avant de pouvoir obtenir des retours sur investissement, si jamais ils arrivent. Et pourtant, malgré cela, la valorisation des actifs, et donc de mes parts, est assez importante en centaines de millions. Je suis donc dans cette liste des personnes les plus riches de France. J'ai un patrimoine qui est sur papier de plusieurs centaines de millions, mais dans la réalité, je n'ai pas plusieurs centaines de millions sur mon compte en banque. C'est une fortune professionnelle qu'on peut qualifier de plus-value latente, c'est-à-dire qu'un jour, si quelqu'un rachète Ledger dans quelques années et qu'elle est vendue 1,3 milliard ou 3 milliards, alors je toucherai en cash des centaines de millions d'euros et ce jour-là, je paierai des centaines de millions d'euros en impôts avec la flat tax, ce qui est tout à fait normal. Mais d'ici là, la possession de ces actions ne me rapporte rien. Tout ce que représentent ces actions, c'est le potentiel futur, c'est la capacité aussi de vote aux assemblées générales pour avoir un contrôle ou un minimum de contrôle sur l'entreprise, c'est un outil de gouvernance. Et puis aussi, c'est la satisfaction d'avoir ce potentiel. Le fait d'avoir réussi avec Ledger me donne une certaine forme de légitimité, mais ce n'est pas un montant cash qui me permet de faire quoi que ce soit. Lorsque M. Zucman a présenté sa taxe, qui vise à ponctionner 2% du patrimoine de toute personne possédant plus de 100 millions d'euros au total, afin de corriger le fait que finalement, en tant qu'entrepreneur, on ne paye pas assez d'impôts, parce qu'on ne se paye pas assez de salaire, le problème s'est posé pour moi. Si je dois chaque année donner 2%, c'est-à-dire environ 7 millions d'euros, ou même 5 millions d'euros, peu importe, eh bien, je n'ai pas les moyens de le faire. Alors, ça paraît complètement absurde, et là, il ne s'agit pas pour moi de me plaindre d'une situation, je ne suis pas du tout à plaindre, j'explique juste la situation comptable réelle qui me concerne dans un souci de transparence pour expliquer. Donc, ces actions valent un prix de marché, mais elles ne sont pas liquides, il n'y a pas de dividende. Donc, sur mon compte en banque, en fait, il y a 0 €. Si jamais je veux aller faire mes courses, ce n'est pas avec Ledger que je vais pouvoir trouver une source de financement. J'ai d'autres activités, je fais d'autres choses, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, on me demande de payer X millions d'euros chaque année simplement parce que je détiens des actions qui sont valorisées à un montant très élevé du fait de tous les rounds de financement de l'entreprise. Pour faire un parallèle, imaginez que vous avez une maison que vous avez achetée un jour à 100 000 euros ou 200 000 euros. Maintenant, elle vaut 1 million d'euros. Et parce qu'il y a une taxe sur le patrimoine, eh bien, vous devez payer 2% de votre maison chaque année. C'est-à-dire que chaque année, vous devez payer 20 000 euros. Alors, vous allez me dire, mais d'où je sors les 20 000 euros? La maison ne me rapporte absolument rien. Certes, elle me permet de vivre, etc. C'est super, j'adore ma maison, mais ce n'est pas avec ma maison que je gagne de l'argent. Ah, voilà, c'est exactement la même situation. Donc, comment je fais pour payer plusieurs millions d'euros? Déjà, je ne peux pas. Je ne peux pas juste aller prendre dans mon compte en banque et faire un virement parce que je ne les ai pas. Donc, on me propose plusieurs solutions. Parce qu'à un moment, ils ont fini par comprendre que oui, effectivement, c'est une fortune virtuelle, ce n'est pas du cash. Donc, il faut trouver des solutions. La première solution, c'est, eh bien, vous n'avez qu'à vendre vos actions. Les actions ont une valeur, il y a un marché, eh bien, vendez-les. Et comme ça, vous allez pouvoir payer l'impôt. Alors, le premier problème, c'est que les actions de Ledger ne sont pas cotées en bourse. Hein. C'est une société qui est privée. Et donc, il y a peut-être un marché, puisqu'il y a des gens qui pourraient tout à fait vouloir acheter des actions de Ledger, mais il y a ce qu'on appelle une décote à cause de l'illiquidité de ces actions. Pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a aussi des classes d'actions avec des préférences qui font que nous, en tant que fondateurs, on a ce qu'on appelle des classes d'actions ordinaires. Et bref, si demain je voulais vendre mes actions, j'aurais une décote de 60%. C'est-à-dire qu'il faudrait que je trouve quelqu'un pour les acheter. Il faudrait ensuite que le board, le conseil d'administration, accepte que cette nouvelle personne rentre en tant qu'actionnaire. Donc, bref, ça me prendrait beaucoup de temps. Il y aurait aussi évidemment la notion d'une banque d'affaires qui devrait trouver, négocier, qui vont prendre des frais, des avocats. Enfin, ça coûte cher de vendre ce type de bloc d'actions. Mais admettons, c'est sûrement possible. En acceptant en fait une décote énorme de 60%, et en plus, dans un environnement où l'acheteur potentiel sait que je n'ai pas le choix, je dois vendre. Donc, à mon avis, vu qu'on est coincé, ce n'est pas 60% de décote, c'est 80% de décote. Donc, pour vendre 2%, finalement, je vais devoir peut-être vendre 5%, 6%, juste sur une année. Et puis ensuite, il y a la flat tax, c'est-à-dire que je dois payer 30%. Donc, il faut que je rajoute 30%. Donc, ça va peut-être être 8% de l'entreprise que je dois vendre chaque année. Et donc là, je peux payer un impôt, mais là, on se marche sur la tête, c'est inacceptable. C'est-à-dire que si chaque année, pour faire face à cet impôt, je dois vendre une grosse partie de l'entreprise, c'est complètement absurde. Et en plus, c'est complètement injuste, parce que, encore une fois, la présence de ces actions ne me rapporte rien. C'est pas comme si, avec, je pouvais m'acheter quelque chose ou faire quelque chose. L'autre option qui m'est proposée, c'est, bah, vous n'avez qu'à emprunter. Mettez vos actions en collatéral, ça s'appelle un lombard, et donc, vous avez de l'argent et vous payez l'impôt avec. Alors, quand je dis mettre en collatéral, ça veut dire mettre en gage. C'est un petit peu comme si vous aviez besoin de cash, vous prenez le collier en or de votre grand-mère, vous voulez pas le vendre hein, parce que vous y tenez, vous allez donc voir ce qu'on appelle un prêteur sur gage. Vous lui donnez le collier, il va dire « Ok, je pense que ça vaut 10 000 euros, par exemple. Donc, okay, je te donne 2 000 euros. » Il va évidemment pas donner la valeur du collier parce que ce serait trop risqué pour lui. C'est donc cela, ce qu'on appelle un collatéral. Alors oui, c'est un système qui existe de mettre ses actions d'entreprise en collatéral, de les valoriser et en échange de récupérer de l'argent qui est emprunté et garanti par ses actions et puis aussi le reste de son patrimoine. Cependant, pour une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, il y a très très peu de banques qui acceptent de faire ce type de lombard, de prêt, et ce qu'on appelle le loan to value, le LTV, c'est-à-dire le ratio entre ce que vous devez mettre en face pour obtenir un crédit, eh bien, est extrêmement faible. Si je veux emprunter 2 millions d'euros, eh bien, il va falloir que je mette en face 20, 30, 40 millions d'euros de garantie. Et de toute façon, c'est même pas sûr que la banque accepte de prendre le risque. Et si jamais elle acceptait de prendre le risque, je devrais de toute manière mettre en garantie, en collatéral supplémentaire, bah, tout ce que j'ai, à savoir, par exemple, bah, mon domaine, ma maison, là où je suis actuellement. Et donc, admettons que je fasse ça, admettons que je trouve une banque qui accepte. Et d'autant plus qu'ils vont me dire, mais cet argent, vous allez en faire quoi? C'est pour payer mes impôts. Donc c'est perdu. Bah, là, ils vont dire, attendez, non, on va pas vous donner de l'argent pour que vous le mettiez à la poubelle. Parce que c'est à peu près. Ça revient à ça. Et s'ils acceptent de vous prêter l'argent, c'est aussi parce qu'ils pensent que vous allez laisser une grosse partie, peut-être la moitié de cet argent, dans la banque et que vous allez investir dans leurs propres produits financiers. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. Donc en gros, si je veux payer 2 millions, par exemple, en impôts, eh bien, il va falloir que j'emprunte 4 et donc que je mette derrière 80 millions en garantie ou 50 millions, plus évidemment tout ce que je possède. Et ce type de prêts durent 2 ans en général. Alors on peut peut-être les reconduire, mais il n'y a aucune garantie. Et évidemment, ce n'est pas un prêt gratuit. Il y a des intérêts qu'il faut payer tous les trimestres. Donc admettons que j'y arrive, je trouve vraiment une banque qui me suit, qui me propose de mettre ça en place, je récupère l'argent et enfin je peux payer la taxe Zucman. Je fais ça une année, 2 années, 3 années. Là, je commence vraiment à tendre parce qu'à la limite, à un moment, je vais être obligé de mettre toutes mes actions que je possède en garantie pour pouvoir récupérer ce que je dois payer. Et là, catastrophe, Ledger dépose le bilan. Parce que oui, c'est complètement possible, rien n'est garanti, hein. Une entreprise, un jour ça vaut 1 milliard, le lendemain ça peut valoir zéro. C'est complètement possible. Et donc non seulement bah, je perds bah, là tout mon patrimoine futur, mais en plus, je dois rembourser à la banque plusieurs millions d'euros sur des actions qui ne valent plus rien. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils viennent me chercher sur mon autre patrimoine, sur ma maison, sur mon domaine. Et donc au final, non seulement je perds tout, mais je me retrouve ruiné et endetté. Et pourquoi? Pour avoir payé une taxe sur quelque chose qui, encore une fois, ne me rapporte rien. Alors, ils ont effectivement commencé à comprendre que c'était un problème. Donc, troisième solution, vous n'avez qu'à payer en nature. Chaque année, vous allez donner 2% de vos actions à l'État. Vous allez potentiellement garder vos droits de vote, hein, parce que le but, c'est quand même de garder un minimum de contrôle sur l'entreprise. Mais on garde les actions, et puis le jour où vous allez vendre l'entreprise, eh ben, on les vendra avec. Alors, ben, ça, c'est super, mais je suis désolé, ça s'appelle du collectivisme, c'est du vol. C'est-à-dire que ces actions, c'est ma propriété, et là, on vient me les saisir pour pouvoir payer un impôt futur sur quelque chose qui, aujourd'hui, ne me rapporte encore une fois rien du tout. Et là, c'est un principe de liberté fondamentale qui est bafoué et qui est inacceptable. Et au bout de 10 ans, bah, ça va être 15% de mon entreprise, enfin de mes parts que je vais donner à l'État. Mais pour quelle raison? Pourquoi est-ce que je devrais donner, au bout de 10 ans, 15% de mes parts à l'État, alors que cela ne représente absolument aucun avantage économique actuel? Je paye un impôt sur quelque chose de complètement virtuel. Et Avant d'arriver à une vente, on peut mettre 20 ans. J'ai créé Ledger il y a 10 ans, je pense qu'il faudra encore 10 ans. Donc si la taxe Zucman avait existé depuis le début, à la fin, ça aurait été un tiers de toutes mes parts que j'ai données à l'État. Et en plus, évidemment, ensuite, un tiers à payer pour la flat tax. Donc à la fin, bah, c'est plus de deux tiers que je donne à l'État. Et là, ça devient confiscatoire. Je veux bien payer plus d'impôts, je veux bien entendre qu'on doit tous faire un effort. Mais la taxe Zucman, telle qu'elle est construite sur un patrimoine futur, sur des plus-values latentes, n'a absolument aucun sens. Ensuite, on me dit, OK, Eric, bon, tu as tes actions Ledger, ça vaut X. Par contre, tu dois bien avoir autre chose. Bah, comment tu fais pour manger, puisque tu dis que Ledger te rapporte rien, c'est que tu as d'autres actifs. Il y a des choses que tu pourrais vendre. Il y a un moyen de payer cette taxe. Alors oui, effectivement, j'ai d'autres entreprises. J'ai investi dans différentes startups, hein, vous pouvez le voir dans qui veut être mon associé. J'ai créé d'autres entreprises dont je possède des parts, comme CoinHouse, qui est un broker crypto, DayOne, qui est un club d'investissement, et puis d'autres. Alors, ces entreprises, collectivement, ne dépassent pas les 100 millions de valorisation, quoique, mais c'est toujours pareil. Je ne peux pas non plus les vendre, c'est exactement le même sujet, il n'y a pas de liquidité, elles ne me rapportent pas non plus de dividendes et donc elles ne me permettent de rien gagner. De temps en temps, je peux vendre des participations, donc oui, ça arrive de vendre des participations parce que parfois il y a des entreprises que l'on peut revendre et donc là, je vais gagner quelque chose, je vais payer la flat tax, mais je réinvestis tout. C'est-à-dire que pour comprendre comment ça fonctionne et d'où vient à la base l'argent qui m'a permis d'investir dans d'autres participations, eh bien, il faut comprendre la notion de structuration financière et la notion de holding. On reproche aux riches de mettre tout leur argent qu'ils reçoivent, lorsqu'ils en ont, dans une holding. Alors, c'est quoi une holding? Une holding, c'est une entreprise que je possède moi à 100% et qui a pour vocation de détenir des participations dans des entreprises. On va prendre un exemple très clair pour expliquer comment ça fonctionne. En 2021, lorsque Ledger a levé 300 millions dans un tour de financement qui était au milieu d'une euphorie incroyable économique, nous avons eu la possibilité, en tant que fondateur et actionnaire, de pouvoir vendre des actions. Pourquoi? Parce que la demande pour entrer dans Ledger était supérieure à ce qu'il y avait disponible. Et donc, la seule façon de satisfaire les investisseurs, c'était que les actionnaires vendent leurs propres actions. Donc cela arrive, ce sont des moments plutôt rares hein, pour un entrepreneur. Il y a très très peu de startups ou d'entreprises non cotées qui font ce qu'on appelle du secondaire, c'est-à-dire de vendre les actions d'un actionnaire, d'un fondateur à un nouvel investisseur, mais ça peut se passer. Et c'est ce qui s'est passé en 2021. Il y a une partie que j'ai récupérée sur mon compte en banque personnel, ok, là c'est de l'argent, d'accord, et une partie que j'ai mise sur la holding, c'est toujours de l'argent, mais c'est de l'argent qui ne m'appartient pas parce que je l'ai apporté à ma holding. Je vais expliquer la différence et pourquoi je fais ça. Déjà, intéressons-nous à l'argent que moi j'ai gagné, c'est-à-dire que j'ai mis sur mon propre compte. Qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, je l'ai principalement utilisé pour pouvoir acheter un domaine, ma maison, et la rénover. Voilà, avec son argent, chacun décide de faire ce qu'il veut. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un beau domaine. Joli avec des finitions de qualité, et donc bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai investi des millions et des millions dans ma maison parce que bah, je considère qu'à la fin c'est le meilleur usage possible que je peux faire de l'argent. Parce que bon, sinon, bah, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Voilà, ça c'est très personnel. Moi, je vais pas acheter des montres, je m'en fous. J'avais envie d'avoir une maison, et donc j'ai dépensé la majeure partie de cet argent dans la rénovation de mon domaine. Il y a aussi une autre partie que j'ai investi en Bitcoin, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc cet argent que j'ai reçu, eh bien, je l'ai dépensé, je l'ai investi en rénovation, et finalement, c'est grâce à cette vente qu'aujourd'hui, je vis au jour le jour. C'est ce qui me permet de manger, etc. Je n'ai pas d'autres revenus avec Ledger, mais il y a eu un moment, une capacité de pouvoir vendre en 2021 des actions. L'autre partie du produit de la vente, je l'ai mis dans une holding. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une limite à l'intérêt d'avoir de l'argent sur son compte. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais, bah, qu'est-ce que je vais faire de mon argent? Si demain, je devais vendre Ledger et avoir 100 millions, par exemple, bah, qu'est-ce que j'en ferais? Je veux dire, il y a un moment, faut bien l'utiliser, cet argent. Et voilà, j'ai rénové un domaine, je ne vais pas en faire deux, trois, je ne vais pas m'acheter un yacht, je ne vais pas m'acheter un jet privé, je m'en fous complètement. Donc cet argent, en fait, moi, j'ai envie de le réinvestir dans l'économie française. Et c'est ce que font la plupart, de toute façon, des personnes qui sont riches. Donc, ils vont les mettre dans une holding, c'est-à-dire que je ne le touche pas personnellement. Il y a parfois aussi des optimisations fiscales qui se font avec une sorte de paiement différé de l'impôt. Tout ça, c'est à peu près compliqué. Mais bon, à partir du moment où le produit d'une cession, d'une vente, d'une action est réinvesti dans l'économie, eh bien, il y a des dispositions fiscales qui font que vous pouvez baisser votre impôt. Ça, c'est pour encourager les personnes à investir dans l'économie. Ça marche très bien, puisque c'est ce que font les gens. Ils le font, un, parce qu'ils se disent de toute façon, qu'est-ce que je vais faire de l'argent sur mon compte? Et deux, ils se disent, autant l'utiliser dans l'économie française, et en plus, je paye moins d'impôts, mais c'est-à-dire qu'en réalité, on va envoyer encore plus d'argent dans l'économie, puisque au lieu d'aller dans l'impôt, ça va aller dans l'économie. En quelque sorte, eh bien, on va reprocher aux personnes qui sont riches, qui ont gagné de l'argent, de réinvestir dans l'économie et donc de payer moins d'impôts. C'est un peu là tout le paradoxe. Donc j'investis dans des startups, dans des projets économiques divers. Et le jour où ces startups sont revendues, bon, c'est rare, hein, la plupart du temps, malheureusement, elles meurent, elles vont en liquidation et je perds tout mon argent, hein, c'est la vie, eh bien, l'argent revient, mais dans la holding, parce que c'est la holding qui possède les participations. Et donc, c'est une sorte de cycle un petit peu infini, et parfois, eh bien, la valeur de la holding peut augmenter, 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 mais c'est l'argent de la holding. Et au même titre que lorsqu'on a une entreprise, l'argent de l'entreprise n'est pas son argent, l'argent d'une holding n'est pas l'argent du dirigeant. Et quand bien même il y aurait beaucoup de cash dans une holding, on ne pourrait pas l'utiliser pour payer son impôt personnel. Donc au final, je me retrouve avec une holding qui a des participations, je me retrouve aussi avec mon domaine, je me retrouve avec un peu de cash, très peu de cash qui reste sur mon compte en banque, et aussi des activités que je peux faire moi quand je travaille. Je peux faire des conférences, je fais des coachings pour les entrepreneurs, donc en fait j'essaye d'utiliser mon temps pour créer de la valeur, et donc tout ceci génère des revenus. Mais ces revenus, en fait, pareil, ils sont dans la holding et ils vont aussi servir à payer les frais d'entretien du domaine, parce qu'il y a une grande partie de l'activité qui est faite sur le domaine, il y a des salaires, il y a des personnes qui y travaillent, on reçoit du monde, on fait des séminaires, etc. Donc c'est un peu comme une entreprise. Et donc tout ce que je fais au final en tant que travail va venir bénéficier au domaine et non pas à moi à titre privé. Donc comment je fais quand j'ai besoin d'argent, comment je fais pour aller faire mes courses? Bien, il me reste un petit peu de ce que j'ai revendu de la part de Ledger, mais il reste pas grand-chose. Et ensuite, j'ai potentiellement d'autres actifs et notamment le Bitcoin. Lorsque j'ai reçu le produit de la vente de Ledger, j'en ai mis une partie en Bitcoin. Pas tout, parce que je savais que j'allais avoir besoin de payer pour les rénovations du domaine à assez court terme. Mais toujours est-il que je possède aussi des Bitcoins. Donc j'ai aussi des actifs qui sont liquides et qui me permettraient potentiellement de payer la taxe Zucman. Cependant, si je veux vendre mes bitcoins, je dois aussi payer la flat tax dessus. C'est-à-dire que pour pouvoir payer un impôt, je dois générer de l'impôt. Et là encore, ça revient à avoir un taux d'imposition qui devient supérieur à la normale. Et tout ceci, encore une fois, et c'est ça qui est important de comprendre, pour payer un impôt sur quelque chose qui ne me rapporte rien. Si demain je vends des bitcoins pour rénover mon domaine, même pour m'acheter un yacht, même si je le ferai jamais, c'est pas du tout ça ce qui m'intéresse, je vais payer de l'impôt. Je paye de l'impôt de toute façon à chaque fois que, à titre personnel, je gagne de l'argent. Comme vous le voyez, je fais un exercice de transparence. Maintenant, on peut me reprocher d'avoir gagné ma vie. On peut me dire, Eric, t'es un bâtard, t'as trop d'argent, ça devrait être interdit. Il y a des gens qui me disent ça, et bon, je l'entends, hein. Et donc, parce que j'aurais gagné trop d'argent, ou parce qu'une personne dans sa vie n'aurait pas le droit de gagner autant d'argent, eh bien, elle devrait le rendre à l'État. Alors, moi, je pense, dans ce cas, il faut aller au bout de cette réflexion. C'est-à-dire, soit on décide qu'effectivement, l'entrepreneuriat, la création de valeur, la création de richesse n'a pas sa place en France, il faut tout taxer, et au moins on a une position qui est claire. Au moins on ne tourne pas autour du pot. Ou sinon, si on veut juste dire il faut contribuer plus, payer plus d'impôts, alors augmenter les taxes, augmenter la flat tax, augmenter l'impôt sur le revenu. Mais ne venez pas créer une taxe qui va venir taxer quelque chose qui au final n'a vraiment pas de sens. La taxe Zucman, en vérité, elle est là pour détourner le véritable débat. Elle est là pour désigner une sorte d'ennemi commun qui serait à la source de tous les problèmes en France, c'est-à-dire les riches. Qu'est-ce qu'un riche? Pour moi, un riche, c'est un contributeur économique net à la société. C'est quelqu'un qui travaille, qui crée de la valeur, qui prend des risques, qui investit son capital, qui met à risque son temps, son argent, son énergie, parfois sa santé mentale, pour essayer de construire, créer de l'emploi, etc. Et s'il le fait, Eh bien, c'est parce qu'il espère un retour. Il espère évidemment s'enrichir, même si ce n'est pas souvent la première des motivations. Si je prends mon cas, je ne me suis pas mis à entreprendre pour devenir riche. Je l'ai fait parce que c'était une sorte d'appel de la forêt, c'était une volonté fondamentale de créer, de construire, et c'est du reste le seul véritable moteur qui fonctionne pour entreprendre. Donc la plupart des entrepreneurs, des gens qui réussissent, ne le font pas parce qu'ils désiraient devenir riches, ils le faisaient parce qu'ils avaient envie de créer de la valeur, de se sentir utile et d'être un contributeur. Ces contributeurs créent de la valeur. Il est donc logique de vouloir les taxer pour qu'ils puissent participer à la société. Et on peut se dire, bah, plus on va les taxer, plus on va récupérer de l'argent. Hein, ça paraît logique. Mais c'est une approche qui est complètement naïve et surtout contre-productive. Parce que quand je dis, OK, bah, vous avez qu'à augmenter les impôts pour avoir plus de recettes. La vérité, c'est que plus vous allez augmenter les impôts, plus vous allez vouloir punir les personnes qui essayent de créer de la valeur en prenant un maximum de valeur chez eux. Eh bien, plus vous allez décourager l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas parce qu'on entreprend uniquement pour devenir riche, on entreprend parce qu'on espère un retour, on espère de créer quelque chose. Et si ce quelque chose, on a l'impression qu'on va se le faire spoiler, qu'on va se le faire prendre, il y a un moment, ce n'est pas qu'on va arrêter d'entreprendre, c'est qu'on va se dire, mais j'allais entreprendre ailleurs. Quelqu'un de normalement constitué, s'il a le choix entre payer une taxe à 30% ou payer une taxe 60%, il va choisir la taxe à 30% et il va donc adapter sa vie, son lieu de résidence à cela. Il est normal de payer des taxes puisque nous bénéficions d'infrastructures, d'éducation, etc. Mais lorsque ces taxes deviennent trop hautes, ça n'a tout simplement plus de sens. Moi, je prends mon cas personnel. Encore une fois, j'ai quitté la France en 2002 à peu près parce que j'en avais marre de payer plein d'impôts. Le coût du travail était trop important. En plus, je me faisais cracher dessus, sale riche, rends l'argent, voleur, profiteur, etc. Donc je me disais, mais attends, pourquoi est-ce que je m'emmerde à créer de la valeur, à essayer de construire des trucs pour en plus me faire insulter et être considéré par la société à l'époque comme un parasite. Donc je suis parti en disant, écoutez, allez vous faire voir, je vais aller créer de la valeur ailleurs. Donc je suis resté 10 ans à l'étranger, j'ai fait ce que j'avais à faire, hein, j'ai créé des boîtes, et finalement, mon pays m'a manqué et je suis rentré. Et je me suis dit, OK Eric, tu rentres, tu acceptes les règles, tu acceptes de payer un impôt important, tu acceptes d'avoir la fiscalité la plus importante en matière de coût du travail en Europe, c'est les règles du jeu et tu vas entreprendre. Je suis rentré, on a créé Ledger, et lorsqu'on a créé Ledger, on était 8 au début, on s'est mis une règle. Bien qu'on resterait en France, qu'on créerait de la valeur en France, qu'on n'allait pas flipper la boîte aux États-Unis, qu'on n'allait pas mettre le siège social en Suisse ou je ne sais pas quoi. Et c'est ce qu'on a fait. On est resté en France, on a investi massivement à Vierzon, au centre de la France, on a créé des emplois, on a investi des millions et on a essayé de créer de la valeur locale parce que ça faisait partie de notre mission. Un entrepreneur n'est donc pas quelqu'un qui souhaite juste accaparer de l'argent. Il veut contribuer à la société. Mais il y a aussi une limite mentale, en tout cas pour moi, par rapport à ce que je suis prêt à payer pour avoir le droit de résider en France. Surtout qu'en France, il faut être honnête, si le pays est vraiment très beau, magnifique, avec les plages, les montagnes, etc., en matière de services, c'est la catastrophe. Insécurité, l'éducation est catastrophique, le système de santé part en lambeaux, et en plus, on doit payer de plus en plus. Si encore, à la limite, j'avais le sentiment que de donner 2%, allez, allez, de donner une grosse partie de ce que j'ai, allait sortir la France de son ornière, je pourrais le considérer. Mais là, la réalité, c'est que je sais très bien que tout l'argent que je vais donner, si je vends tout ce que j'ai, si on me force à donner mes actions, à vendre mes autres actifs, tout ça pour aller nourrir un État obèse, c'est juste jeter de l'argent à la poubelle. Cela ne changera absolument rien. Dans 2 ans, ce ne sera pas 2%, ce sera 4%. Il n'y a pas de limite à ce que l'État va aller chercher, puisque le véritable problème, ce n'est pas combien on peut faire payer les riches, c'est comment on doit réduire le train de vie de l'État, couper les dépenses et vraiment mettre en place des solutions courageuses qui vont permettre à la France de se redresser. Il faut couper toutes les aides, il faut commencer aussi par couper les aides aux entreprises, hein, il faut être complètement logique. Et moi, je ne crois que la seule solution, c'est d'avoir une approche extrêmement difficile au niveau de l'État en coupant tous les postes de dépenses. C'est la seule façon de redresser le pays, un peu comme une entreprise. Et évidemment, cela demande beaucoup de courage politique et je ne pense pas que ce soit possible. Je ne crois pas une seule seconde qu'un politique ou une politique qui viendrait le faire y arriverait parce que il ou elle ferait face à des mouvements sociaux d'ampleur absolument incroyable pour protéger les acquis et la France serait à feu et à sang si jamais on essayait de faire ce qui est nécessaire pour, eh bien, essayer de sauver le malade. On va aussi me reprocher et me dire, mais Eric, tu as bénéficié de la France, tu as été à l'école, la France t'a aidé, l'a payé, l'a fait tes études. Puis quand tu as fait Ledger, tu as sûrement eu des aides de l'État. La BPI, tu as sûrement fait des prêts, etc. Alors oui, c'est vrai, j'ai bénéficié des infrastructures, j'étais à l'école en France. Et lorsqu'on a lancé Ledger, il y a eu quelques aides de l'État, c'est vrai, mais ces aides, on les a complètement remboursées. Et moi, à titre personnel, je pense que j'ai renvoyé largement plus d'argent à la France que ce que je lui ai coûté. Donc j'estime avoir une position morale tout à fait tenable par rapport à cela. Au final, ce que je retiens de cette histoire Zucman, c'est qu'elle montre surtout à quel point il y a désormais une polarisation entre les contributeurs nets économiques, donc les riches, ceux qui contribuent à la société, et ceux qui ont besoin de cette contribution pour pouvoir continuer de vivre. Il y a une opposition entre les riches et les pauvres, et j'ai l'impression de revenir en 2002, où le sentiment d'avoir réussi était suspicieux, était signe d'avoir quelque part volé l'argent, d'avoir accaparé tout, et que l'entrepreneur finalement est plus un parasite au sein de la société que quelqu'un qui veut l'aider. Et c'est ça qui me désole le plus. Et c'est sûrement pour ça que je fais cette vidéo, non pas pour essayer de gagner quoi que ce soit, parce qu'en réalité, avec ce jeu de transparence à expliquer des choses, j'ai rien à gagner, j'ai plutôt tout à perdre, puisque au final, parler d'argent, je pense, ne rapporte jamais rien à personne. Mais je suis vraiment désolé et triste du fait que plein de personnes en France, et de plus en plus de personnes en France, adoptent un logiciel que moi je qualifie de marxiste, qui consiste à dire que finalement, tous les problèmes proviennent de l'autre. Car ma philosophie a été au contraire toujours de dire que nous sommes le résultat de nos actions et en aucun cas la victime de nos circonstances. Et donc j'ai vraiment du mal à accepter que tant de nos concitoyens voient des entrepreneurs, des personnes qui essaient de créer de la valeur, comme des parasites, comme des personnes qui volent. Et le retour de ce marxisme, de ce collectivisme, me laisse présager d'un futur encore plus sombre que celui que j'avais puis imaginez avant, certes la dette est abyssale, certes les intérêts de la dette ne font que croître, certes on va vers un gouvernement qui semble vouloir taxer encore plus, plutôt que de faire des économies, continuant de précipiter la France dans le ravin. Et j'ai bien peur que la conséquence, ce soit au final de faire fuir des esprits entrepreneuriaux, de faire fuir les gens qui sont contributeurs nets. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que dans la société actuelle, eh bien, on peut se déplacer facilement, on peut aller partout dans le monde, et toute personne qui veut créer de la valeur, finalement, elle est cliente d'un État qui va lui proposer un certain nombre d'options, des options fiscales, des options sociales, des options d'éducation, etc. Et on ne peut plus réfléchir comme si la France était la seule option. Et la France doit vraiment comprendre ce point-là. Sinon, tout le monde va partir, les entrepreneurs vont partir. Ceux qui défendent la taxe Zucman disent qu'on a déjà eu l'ISF. On a déjà eu des tentatives d'impôt à 70%, que finalement, peu de riches sont partis. Peut-être, effectivement, ceux qui sont vraiment riches, ils sont installés, ils n'ont peut-être pas envie de partir. Par contre, ce qu'on ne voit pas dans les statistiques, ce qui est terrible, et qui est vraiment le symptôme du mal possible en France, eh bien, ce sont tous les jeunes qui partent avant d'être millionnaires, qui partent avant d'être riches, simplement dégoûtés par les options qui leur sont proposées en France et qui vont aller voir sur d'autres cieux plus cléments, développer leurs entreprises dans d'autres pays et créer de la richesse ailleurs. Donc, en conclusion, il ne s'agit pas vraiment de mon cas personnel que j'ai utilisé pour illustrer ce sujet, mais vraiment de réfléchir à ce qu'on a envie de donner comme futur à la France. Est-ce qu'on veut une France qui essaye de créer de la valeur, qui encourage l'entrepreneuriat, la responsabilité individuelle, la méritocratie? Est-ce qu'on veut une France qui crée de la valeur, qui soit forte économiquement? Ou alors est-ce qu'on veut une France collectiviste qui va aller récupérer l'argent pour essayer de faire fonctionner l'État au mépris du futur, c'est-à-dire de se mettre dans une position de vouloir tout de suite tout prendre pour essayer de résoudre la situation, plutôt que de faire un effort, de se faire du mal, car oui, ce sera difficile, pour pouvoir un jour revenir sur une situation qui soit acceptable pour tous les Français. Alors évidemment, je n'ai pas de réponse. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis dans une situation où j'aurai des choix. Ce qui n'est pas le cas de tous les Français. Il y a beaucoup de Français qui souffrent, qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas changer de pays, qui sont coincés dans le système actuel et qui, eux, n'ont pas cette liberté. L'argent, au final, c'est la liberté. Et c'est ça la véritable richesse. Et tous ceux qui ont cette liberté pourront à un moment se retrouver face à un choix qui sera peut-être de déterminer la manière dont ils construiront leur futur. Et tout ce que j'espère, c'est que la France fera encore partie de ces options. Maintenant, après avoir écouté mon monologue, écoutez, je vous laisse me mettre en commentaire si vous pensez que je suis un parasite ou pas.